I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Charpentier ici présent. Salut Julien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pour parler de 48 heures de Walter Hill. 48 heures de Walter Hill, on peut dire le blueprint, en vrai, du buddy movie des années 80, quoi.
Et au-delà.
Mais alors, même si, objectivement, ce n'était pas, c'est pas le premier buddy movie qui ait jamais existé, quoi. Loin s'en faut.
C'est probablement pas le premier buddy movie, ça je sais pas.
Non, mais il y avait des films dans les années 70. Alors le premier, je sais pas exactement, mais t'avais des films dans les années 70, genre Les Anges Gardiens de Richard Roche ou des trucs comme ça. Et puis t'as Starsky Hutch à la télé. Donc voilà, quand les mecs t'expliquent que le buddy movie c'est né avec Miami Vice, t'as envie de dire non, pas tout à fait quand même, tu vois.
Non, puis il a cristallisé beaucoup de choses parce que c'est un poisson pilote du buddy movie, c'est vrai. Mais au final, L'Arme Fatale a apporté presque autant d'ingrédients. Que celui-ci. Hein.
Voilà. Alors, du coup, je sais que t'as pas envie de le faire, mais tu vas le faire quand même, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais pitcher 48 heures ? De quoi ça parle, 48 heures ?
Alors, 48 heures, comme on l'a dit, c'est un buddy movie. Donc, c'est l'histoire de Jack Cates, joué par Nick Nolte, qui, suite à l'évasion d'un membre d'un gang, essaie de retrouver le seul membre du gang qui est encore trouvable, qui est en prison, Reggie Hammond, joué par Eddie Murphy, et donc il décide de le faire sortir de prison pour, comme son nom l'indique fort bien, 48 heures, histoire de réussir à retrouver ce membre du gang et de l'arrêter.
Voilà. Et au passage, en fait, l'intérêt pour le personnage d'Eddie Murphy, c'est de retrouver l'argent, en fait, d'un casse qu'ils ont tous commis ensemble à l'époque, et face à part en tout cas du butin, quoi.
Ouais. C'est ça, un demi-million de dollars, ce qui a été beaucoup en 82, et aujourd'hui, c'est pas suffisant pour s'acheter un appartement à Paris.
Voilà, mais...
De deux pièces.
Exactement. Mais alors, le truc, c'est que c'est surtout... En fait, c'est pour dire qu'il y a une vraie corrélation entre les deux personnages, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont obligés de s'entraider. Ouais. Et comme dans tous les buddy movies, au début, ils se détestent, ensuite, ils deviennent un peu potes, et à la fin, bon, bah voilà.
À la fin, ils sont clairement potes, mais pour le coup, sur celui-là, c'est vraiment à la fin, parce qu'en fait, ils passent vraiment la plupart du film
à se mettre des dailles dans la gueule, quoi, et s'envoyer des grilles, quoi. Alors, c'est un projet... Alors déjà, il y a quand même pas mal de bon monde hein, là-dedans. Déjà, t'as parlé de Walter Hill en tant que réalisateur, mais il y a aussi, donc... parmi les scénaristes, on va en parler un peu après, il y a Roger Spottiswoode, à la base, qui, j'ai bien compris, à l'origine du projet. C'est une prod Paramount... de Lawrence Gordon et Joel Silver.
Donc, ouais, et c'est presque un film de première fois d'ailleurs, parce que c'est pas la première prod de Joel Silver, mais c'est l'un des premiers films qu'il a produit comme un grand, on va dire.
Voilà. Et avec également Steven De Souza au scénario, ça je sais pas si je l'ai dit.
Première fois aussi.
Voilà, parce que c'était surtout un scénariste de télé à ce moment-là. Et puis pour Eddie Murphy, une première vraie la starification au cinéma, puisque c'était à ce moment-là, à cette époque-là, en gros le membre du Saturday Night Live qui avait sauvé l'émission. C'est-à-dire que voilà. Et bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire après ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film déjà en tant que soi ? C'est-à-dire pas forcément sur la fabrication, on va y revenir un peu après, mais sur son côté un peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu le revois, et le film il a presque 40 ans. Il a une gueule de classique et en même temps il est hyper balisé finalement quand tu réfléchis, c'est pas hyper tu vois, ça se suit avec un grand plaisir, moi j'aime beaucoup le film hein, je trouve ça très sympa, je pense que les gens qui le découvrent aujourd'hui vont se dire bon bah j'ai déjà vu ce film en fait
forcément tu l'as déjà vu, mais il y a plusieurs raisons à ça. Bah, la première c'est qu'effectivement Walter Hill c'est un réalisateur qui ne s'embarrasse pas avec des effusions. C'est un mec qui va direct au but, droit au centre, et donc il a tendance à enlever tout ce qui est en trop, tout ce qui est... Il aime pas le gras, Walter Hill. Et du coup, forcément, les films qu'il fait s'en ressentent, puisque les films qu'il fait vont directement au but, vont à l'essentiel, Et fondamentalement, tu vois, même si t'es pas un grand connaisseur de structure scénaristique, tu la vois, la structure scénaristique, parce que la plupart du temps, elle est limpide. Et puis ensuite, bah, comme on l'a dit au tout début, c'est pratiquement le poisson pilote du film de Buddy Movie. Donc ce qu'il a créé dans ce film, ces figures archétypales de dire il faut qu'il y ait deux personnages qui soient antagonistes, et puis... comme tu me l'avais signifié un jour, ça m'avait fait pas mal marrer. On avait parlé de Hobbs & Shaw, ce grand buddy movie, et tu m'avais dit « Ouais, mais en fait, c'est ridicule, c'est tous les deux des chauves costauds. » Et j'avais éclaté de rire, mais la fondation de ta pensée, elle est tout à fait logique. C'est que si les deux mecs font la même chose, et en plus, dans Hobbs & Shaw, ils s'en vantent en les mettant en parallèle dans le générique, bah, en fait, si t'as deux fois le même personnage, le buddy movie peut pas fonctionner, puisque ça doit être des gens soit contraires, soit complémentaires. Et là, c'est pour le coup, c'était l'un des premiers films qui mettait cet ingrédient-là en place. Pas le tout premier, bien entendu. Hein.
Non, bien sûr.
Ça peut remonter jusqu'à la chaîne, voire probablement bien avant. Et il le faisait de façon extrêmement efficace, de la même façon. C'était aussi un risque de prendre un comique dans un rôle comme ça.
Ce qui était d'ailleurs pas du tout le but initial. C'est, en fait, c'était un projet Paramount qui traînait depuis pas mal d'années, sur lequel Walter Hill était associé parce qu'il a réécrit le scénario de Spottiswoode. Alors, moi j'ai interviewé Steven D'Souza plusieurs fois et on a parlé de ce 48 heures. Et apparemment, selon lui, alors moi je ne l'ai entendu que chez lui, ça, hein, comme anecdote, c'est un scénar qui est tellement vieux. C'est-à-dire, le film s'est fait en 82, mais il date de la fin des années 60, début des années 70. Tellement vieux finalement que à la base le tout premier duo pensé à l'époque c'était Robert Mitchum et Clint Eastwood. C'est-à-dire Clint Eastwood avant l'inspecteur Harry quand même. Hein.
Écoute, j'ai entendu l'intérêt de Clint Eastwood, mais j'avais jamais entendu Robert Mitchum. Et sur Clint Eastwood, en fait, c'est dans une interview de Walter Hill que j'ai vu ça. Il a expliqué en fait que oui, Eastwood a été intéressé pendant relativement longtemps, mais que vu que justement le projet traînait dans les limbes, il a fini par choisir L'évadé de l'Alcatraz de Don Siegel. Et quand L'évadé de l'Alcatraz est sorti, il a eu le succès qu'on sait, bah, il a été voir Walter Hill en lui disant bah écoute, je veux pas refaire un flic. Parce que j'ai fait Dirty Harry et que j'ai déjà une figure tutélaire de policier. Et en fait, je viens de faire un film où je suis le mec qui est en prison. Donc en fait, le projet m'intéresse moins qu'avant. Et a priori, ce serait pour ça qu'il n'aurait pas fait le film.
D'accord. Bah, ça aurait été une chouette rencontre quand même.
Ah, tu m'étonnes.
Walter Hill et Clint Eastwood.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Walter Hill s'est dit bah, je vais choisir l'antagoniste. Et il voulait Richard Pryor. Et il a demandé à Richard Pryor s'il voulait faire le film, et Richard Pryor a dit non, ça l'intéressait pas, il a préféré faire un film qui est sorti en plus à la même époque, en 82, que 48 heures, qui est le The Toy, le remake du jouet.
Oui, le remake du jouet de
Pierre Richard.
De Pierre Richard, ouais.
Et donc, du coup, bah, il était un peu abattu.
Enfin, avec Pierre Richard.
Avec Pierre Richard, pardon. Et il était un peu abattu, il savait pas exactement qui prendre pour faire le film, mais en fait, celle qu'il était en train de draguer à l'époque, qui s'appelle, alors je suis désolé, je vais regarder mes notes parce que j'ai un peu oublié son nom, Ildi Gottlieb, c'était sa copine, et c'était, qui est devenue sa femme, et qui est encore sa femme, miracle à Hollywood, ils sont mariés depuis plus de 40 ans.
Bah, c'est le no bullshit Walter Hill.
Voilà, c'est le no bullshit Walter Hill. En fait, elle était agente, et elle était l'agente d'Eddie Murphy, elle lui dit, écoute, regarde le Saturday Night Live avec moi, ce mec, il est vraiment drôle, il a vraiment quelque chose, il a l'étoffe d'une star. Et Walter, il a regardé et il a fait « Ok, banco, on essaye ».
Alors c'est un des trucs en fait qui est assez, je pense, c'est le succès du film, il est dû beaucoup à mon avis à la starification d'Eddie Murphy à cette époque-là, parce que c'est pas, alors, on a dit c'est un blueprint en fait pour c'est vraiment un plan tu vois, détaillé de comment faire un buddy movie, mais il y a aussi cette façon de traiter Eddie Murphy qui est quelqu'un qui improvise beaucoup.
Oui.
Donc il y a des scènes dans le film et je pense que c'est assez évident que par exemple la première fois qu'on voit Eddie Murphy, qui est en plus presque un personnage secondaire, hein, quand tu suis vraiment l'intrigue, il arrive au bout de 20-25 minutes, le film fait 1h30, ça c'est pas non plus, voilà quoi. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il est en train de chanter, mais comme une chèvre, tu vois, Roxanne de Police, quoi, de Sting, et la scène elle est hilarante.
Et tu connais l'anecdote derrière ça ?
Non, vas-y.
En fait, Walter Hill tourne la scène, donc on va dire un jeudi, hein, j'en sais rien, le jour, et puis arrive au soir, il fait je suis pas content, cette scène fonctionne pas. Bon, écoutez, les gars, il est 16h, on remballe, on verra demain, quoi, parce que là, j'y arrive pas, j'ai besoin de dormir sur la scène. Il y va, il se couche, machin, et puis il revient le lendemain pour le tournage, et c'est Murphy qui vient le voir, effectivement, et qui lui dit « J'ai une idée
ouais, ». Ouais.
Sauf que ce jour-là, il y avait un exécutif sur le plateau. Et il tourne la scène, et c'est là qu'on voit à quel point le cinéma des années 70, 80, 90 mettait en avant les réalisateurs, pas les exécutifs. C'était pas des financiers qui avaient le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils font la scène, et il se met à chanter à Roxane tue-tête, et Walter Hill, il trouve ça mortel, il fait « C'est dans la boîte ». Et l'exécutif, il vient le voir, il fait mais t'es gentil, Walter, mais on n'a pas les droits de la chanson. Tu peux pas faire ça, donc tu vas couvrir, tu vas faire une scène sans Roxane. Et Walter, il le regarde et lui fait, tu sais quoi, fais ton boulot d'exécutif, toi tu vas chercher les droits, moi je m'occupe de mon taf de réal et on va la garder, on va pas se couvrir. C'est génial.
En plus, c'est vrai que j'en avais entendu parler de ce truc, c'est vrai. Mais alors, t'as déjà une présentation de personnage comme ça, où tu te dis, ok, bon, bah lui, en gros, c'est le footeur de merde, tu vois, ça fonctionne très très bien. Ce qu'il était d'ailleurs, en fait, dans la logique du Saturday Night Live, hein. C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, où maintenant le Saturday Night Live, c'est une institution, ça fait presque 45-50 ans que ça existe, quoi. À l'époque, en fait, il n'était pas forcément question que ça reste. Et le truc avec Eddie Murphy, c'est que c'est lui qui a pris le truc à bras le corps, qui est devenu la superstar, en fait, du show, et qui l'a complètement sauvé, en détournant complètement l'humour du truc. Il y a des sketchs maintenant, je sais pas si les gens qui suivent, enfin, le Saturday Night Live, c'est connu en fait en France comme une institution, mais c'est pas forcément, on connaît les films qui sortent du Saturday Night Live, on connaît les stars qui sortent du Saturday Night Live éventuellement, on connaît pas forcément les sketchs, tu vois.
Surtout qu'à l'époque où ces sketchs sont sortis, c'était un programme télé diffusé de façon hebdomadaire, auquel on n'avait absolument pas accès en France.
Sauf si t'avais un cousin qui t'envoyait des cassettes.
Cousin des States.
Ouais, qui t'envoyait des cassettes. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens, bon, les Alain Chabat, les mecs comme ça, c'est ce qu'ils faisaient. En fait, on leur enregistrait des cassettes. Il y avait des potes qui leur enregistraient des cassettes aux États-Unis, qui leur envoyaient. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont repris beaucoup de cet humour-là, en fait, pour le faire à la sauce française, quoi. Mais c'est important, en fait, de pointer que le fait que Eddie Murphy soit noir, en fait, a une incidence importante dans l'humour du Saturday Night Live à ce moment-là, et donc par extension dans l'humour aussi de 48 heures, parce que tu te retrouves avec des séquences où toute l'idée c'est de dire bon bah voilà, en fait t'as Nick Nolte qui dit à Eddie Murphy tu vas aller dans ce bar, tu vas prendre mon insigne, tu vois,
dans le bar Redneck, tu veux dire,
ouais, mais sauf qu'on sait pas que c'est un bar Redneck au moment où ils sont en train de faire le truc, quoi. Il lui dit tu vas prendre mon insigne et tu vas, alors le mec il se dit putain c'est cool, tu vois, je vais pouvoir jouer le flic alors quand je suis un voyou, quoi, tu vois, et dans un bar où ils s'attendaient pas à ce que ce soit justement un bar redneck, et là il rentre, c'est un bar redneck avec carrément le drapeau des confédérés, hein, tu vois, enfin voilà, et là en fait bah il se démonte pas, il fout juste le bordel, quoi, tu vois. Et alors apparemment ça c'est une idée, l'idée d'inverser le bar, en fait, justement parce que c'est apparemment dans la première version de Walter Hill c'était un bar avec des noirs, quoi. Là c'est un bar de redneck, c'est une idée de Steven D'Souza, donc qui est finalement resté, parce que mine de rien je crois qu'il est crédité, hein, Steven D'Souza, si je dis pas
oui, il y a Spotty Food de D'Souza, et je crois qu'il y a Hill aussi,
mais... Walter Hill et un autre scénariste dont on va retrouver le nom après, mais en fait qui est celui qu'il a réécrit avec Walter Hill, donc on peut signifier que c'est quand même Walter Hill qui a beaucoup infusé le sens du film, quoi, dans cette version là et le truc c'est que Steven D'Souza en fait il a été apporté par le studio. Donc à la base le studio voulait que le film soit un peu plus comique que ce qui était sur le papier en fait avec Walter Hill, et apparemment Walter Hill ne voulait pas forcément ça, même si bon à la fin les scènes elles sont quand même tournées, c'est ça qui est étonnant, et ça c'est ce que raconte Steven D'Souza quand je l'ai interviewé.
Marrant.
Il disait en gros il faut qu'on fasse un mélange action humour et Walter Hill fait ok, vous proposez quoi, bah on a ce jeune scénariste qui débute, qui s'appelle Steven D'Souza, qui est quand même déjà confirmé, qui a pas mal de choses, ça c'est Steven D'Souza qui raconte. Et Walter Hill dit ok, bon, bah, t'as fait quoi en fait, Steven D'Souza, qu'est-ce que j'ai pu voir? Et comme c'était son premier film, le mec disait bah moi c'est surtout de la télé et tout. Et là il regarde les exécutifs qui étaient Katzenberg et Michael Eisner, tu vois, qui était à la tête de la Paramount à l'époque, et il leur fait, vous m'avez ramené un scénariste de télé là pour réécrire mon scénario? Et les mecs, oui, mais tu sais, il a du talent et tout. Et en fait, apparemment, pourquoi est-ce qu'on pourrait... Enfin, les mecs lui expliquent, ils disent, pourquoi on pourrait pas faire un mélange d'humour? Et là, ils pointent apparemment un des posters qu'ils avaient dans leur bureau. Un poster avec Richard Pryor, d'un film qui, en anglais, s'appelle Stir Crazy. Et c'est un poster assez connu aux États-Unis parce que c'était un carton énorme, hein, ce film-là, où il est déguisé en poussin géant.
Ouais, ok.
Voilà. Et en français, ça s'appelle Faut se faire la malle. C'est un film avec Gene Wilder et Richard Pryor, qui est plutôt rigolo, hein, ceci étant dit. Mais c'est vraiment pas du Walter Hill, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quand ils ont pointé du doigt, comme par exemple, comme Stir Crazy, on pourrait faire un mélange d'humour avec un humour à la Stir Crazy, ils pointent ça du doigt. Et là, Walter Hill s'est levé s'est barré, a claqué la porte, mais tellement fort que le poster s'est cassé la gueule, selon Steven De Souza.
Bah c'est marrant parce que il, dans une interview, dit qu'il voulait Richard Pryor, et Steven De Souza dit que dans une interview, qu'en fait, quand il a vu le poster avec donc, un acteur comique, ça l'a foutu en rogne. Donc, va savoir lequel a des bons souvenirs là-dedans, ou si c'est juste une évolution de la pensée où en fait il a dormi dessus et il s'est dit bon en fait c'est pas si mal d'avoir un comique.
Ouais, et puis je pense que de toute façon quand tu prends quelqu'un comme Eddie Murphy, c'est pas possible de, et surtout à ce moment-là en absolument. Fait c'était pas possible de faire, d'ailleurs enfin je veux dire il faut regarder les choses un petit peu en face. Nick Nolte, c'est le bourru, c'est le personnage, tu vois, c'est l'alcoolo un peu de mec qui se lève et qui déjà d'entrée de jeu se met du whisky dans le...
Oui, il se lave les dents au whisky.
Ouais, voilà, c'est ça, du whisky dans le café, quoi. Et Eddie Murphy, c'est le ressort comique, il est traité comme ça, et d'ailleurs dans leur baston. En fait, parce qu'il y a une baston forcément canonique, hein, comme d'hab dans un buddy movie entre les deux personnages, c'est littéralement pas Eddie Murphy qui se bat, et ça se voit en fait quand tu revois le film. C'est Tony Brubaker, là, le cascadeur, le chef cascadeur qui le remplace, et ça se voit physiquement. En fait, tu reconnais tout de suite que c'est pas Eddie Murphy qui, à l'époque, avait 22 ans. Était gaulé comme une il était tout fluet, quoi, comme une allumette, et qui voilà, enfin était, il pétait le charisme, ça c'est sûr, tu vois,
sûr.
Mais c'était pas le Eddie Murphy qu'on va connaître un petit peu plus tard, qui pouvait éventuellement un peu plus passer pour un héros d'action, quoi. Donc là je pense que toutes ces réserves en fait de la part de Walter Hill, elles pouvaient être légitimes jusqu'au moment donné où d'un seul coup tu te retrouves sur le plateau, et le Eddie Murphy se retrouve à aussi improviser pas mal, parce que mine de rien, la scène du bar de Redneck, en fait, ce qui est vachement intéressant avec cette scène aussi, c'est que et mine de rien, je pense que c'était assez nouveau, hein, dans les années 80 à ce moment-là, de traiter, parce qu'il se fait quand même traiter de nègre pendant tout le film, hein, Eddie Murphy, faut le dire quand même, et t'as quand même une scène à la fin, et je pense que les gens qui ont écrit la scène l'ont écrit d'une certaine manière, et Eddie Murphy l'a dit non, on va la jouer d'une autre manière, tu vois, t'as quand même la scène de comment il s'appelle, de Nick Nolte, j'allais dire Walter Hill, lapsus, tu vois, de Nick Nolte qui lui dit je suis désolé de t'avoir traité de nègre, et lui fait ouais bah c'est pas une excuse.
Ouais, ça excuse pas
tu
tout.
Vois, ça excuse pas tout, quoi. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que ça, c'est sûr, en fait, que ça vient d'Eddie Murphy. Ça, c'est sûr que c'est lui qui, en gros, a traité tout ce truc-là. Et d'ailleurs, tu revois même les films qui sont sortis après, où il avait encore, c'est-à-dire, il avait pas encore, jusqu'au, on va dire, au Flic de Beverly Hills, qu'il a été le carton atomique, en fait, dans la carrière d'Eddie Murphy, qui a changé sa carrière totalement, quoi. Ces trucs-là étaient non seulement traités, mais assimilé avec une certaine fierté, quoi, c'est-à-dire genre non, tu me parles pas comme ça, tu me traites, ouais, pas comme ça, que ce soit dans Un fauteuil pour deux, que ce soit dans 48 heures, que ce soit même dans Le Flic de Beverly Hills. Donc du coup faut même, en fait, tu vois, en regardant, même si c'était déjà dans les comédies de Richard Pryor ou ce genre de choses, en fait, c'était traité, il y avait d'autres films qui traitaient de ces sujets-là, le mettre dans un gros film mainstream d'action pur et dur, si tu veux, où c'est quand même l'endroit où bah, le public, c'est un public de redneck aussi, hein, faut être honnête, tu vois, aux États-Unis, quoi. Bah, c'était assez, nouveau à ce moment-là, quoi. Et mine de rien, du coup, ça traite cet aspect de différence, en fait, si tu veux, culturelle, raciale, si tu veux, en sans jamais vraiment détourner le regard sur cette problématique-là. Et ça, c'est un trope de buddy movie aussi qui a été, mais juste, tu vois, saigné, quoi.
Et puis on sent dans cette scène dont tu parlais dans le bar Renek, il y a, enfin, je suis quasiment sûr qu'il y a une écriture de Steven De Souza, Spottis, etc. Mais il y a ce sens dont on a déjà parlé de l'improvisation d'Eddie Murphy qui ressort, parce que il fait un show à ce moment-là.
Ah, complètement, ouais.
Et en plus, vu que ce qui est super, c'est qu'il fait un show, mais sans que ça ne dénature la scène. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu faire, attention, parenthèse, enfin, double point, ouvrez les guillemets, le stand-up de Eddie Murphy au sein du film, et c'est pas du tout ce que ça rend. Mmh. Ce que ça rend, c'est vu qu'il l'a provoqué avant, et que Murphy veut prouver qu'il est capable de s'en sortir, quelles que soient les circonstances, puisqu'il lui dit tu penses que tu sais ce que c'est que le baratin, je vais te montrer du baratin de première classe. On voit l'impro de Eddie Murphy, mais ça sert le personnage de Reggie Hammond. Et ça, je trouve que c'est un super moment de cinoche, en fait.
Oh, c'est clair. Et puis, en fait, de toute façon, il y a pas mal de petits moments comme ça qui sont très, parce que c'est quand même, bon, c'est du Walter Hill, c'est quand même un film assez macho, hein, ça, faut être assez clair là-dessus, tu vois, ça a toujours été un peu comme ça.
Il a toujours fait un cinéma,
entre
le macho et le bourrin,
un cinéma. Ouais, c'est ça, mais de western, de très direct, comme tu dis, avec, moi, je trouve, en fait, ce que j'aime bien chez Walter Hill, c'est souvent, en fait, c'est l'une des qualités et peut-être l'une des problématiques du filmage de Walter Hill, c'est cette notion que si t'as pas un monteur derrière pour bien dynamiser ça, tu vois, tout de suite, ça peut être assez mou, en fait. Hein. Walter, il y a des films dans les années 90, c'était un peu plus dans cette veine-là, quoi. Des trucs comme Wild Bill, ou tu vois...
Bah pareil, j'ai vu l'interview relativement intéressante où il explique qu'au niveau du tournage, il a énormément utilisé du téléobjectif et des longues focales, parce qu'il disait, je voulais avoir un côté un peu... Je voulais sortir de la réalité et montrer que 48 heures, c'est un univers fantasmé. Et en fait, quand tu vois le film, oui, c'est vrai qu'il y a plein de téléobjectifs, c'est vrai que, vu qu'il utilise des longues focales, t'as les arrière-plans qui sont fous, il y a du bokeh de tous les côtés, mais en même temps, Chasser le naturel, il revient au galop, ça reste quand même un film qui est brut de brut. Alors que le mec essaie de faire un effort de forme, au final, c'est un film qui s'embarrasse pas avec des fioritures.
On va dire, l'effort de forme, c'est aussi, tu vois, il y a des petits trucs, en fait. Alors, c'est clairement un film à mi-chemin entre les années 70 et les années 80, hein, dans la façon d'être fait, quoi. Et notamment, bah, par exemple, les néons, les néons de Chinatown à la fin, bon, là, ils ressortent assez, et c'est très, très iconique, quoi. Tu vois, ça fonctionne, tu dis, ok, là, c'est les années 80 à fond la caisse, tu vois. Ce qui est pas forcément le cas de la scène d'ouverture, tu vois, quand les mecs, ils sont en train de pilonner la terre, là, tu vois, les comment t'appelles ça, les bagnards, là, tu vois, et que d'un seul coup, t'as une scène d'action très Peckinpah, tu vois, où les mecs se font fumer au ralenti, tu vois, avec deux coups de feu, les flics qui dégagent. Moi, j'adore ce plan, qui est encore une fois un plan hyper connu, hyper classique, mais qui fonctionne tellement, moi, je trouve, tu vois, qui est cliché, hein, même, hein, c'est la vue des mecs dans les Ray-Ban, tu vois, du comment t'appelles ça, du gardien de prison, quoi, tu vois, et qui est génial, quoi, tu vois, enfin, donc c'est des clichés, c'est tout un tas de trucs comme ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croit en ça, il croit en fait dans cette imagerie, en fait.
Et pour, y a une anecdote d'ailleurs sur cette séquence de tournage, donc toute la séquence de la prison, c'est que la personne qui vient faire, qui vient aider James Remar, donc qui joue le bad guy, à s'échapper, c'est Sonny Landham.
Ouais.
Et Sonny Landham, il avait déjà joué sur son retour, sauf que Sonny Landham, ça a toujours été un gars un peu. Problématique dans la mesure où bon bah il aimait bien l'alcool et puis c'était un type qui avait aucun problème à faire des bagarres de bar. Conclusion, sur son retour, il s'était battu avec la moitié de la Louisiane et les exécutifs ont dit écoute Walter, si tu pouvais pas le reprendre celui-là, ça nous arrangerait quoi, parce qu'on aimerait bien éviter les ennuis, et Walter il a fait non mais c'est bon, je le gère, etc. Et premier jour de tournage de la scène de la prison, ils sont en train de faire le setup, tout est en place, ils sont prêts à direction, sauf que Sonny Landham, il est pas là.
D'accord.
Donc le prod du film va voir Walter Hill et lui fait tu peux tourner des trucs sans Sonny le temps qu'il arrive là, parce qu'on sait pas où il est, et il répond vous êtes gentil, mais c'est une baston entre lui et Remar, donc ça va être compliqué, enfin je peux faire quelques plans avec le cascadeur, avec la doubleur, ouais. Quoi, mais j'ai besoin de lui. Et puis Landham arrive aux alentours de midi, l'air un peu penaud, parce qu'en fait il était bourré, il a été dans une bagarre de bar et il s'est retrouvé, il a passé la nuit en garde à vue, quoi. Et là où c'est fort, et c'est là où tu reconnais le no bullshit de Walter Hill, c'est que Walter Hill, donc on rappelle, hein, c'est un mec qui doit faire, s'il fait 1m70 c'est son maximum, Sonny Landham il fait 1m90, il t'en met une, il t'arrache la tête, hein. Et Walter Hill lui fait toi tu viens avec moi. Et ils vont discuter tous les deux au bord d'une rivière, et il fait ouais, Landham fait je suis désolé, je suis innocent, je sais pas ce qui s'est passé, je suis innocent. Et il lui fait ah, de dire que t'es innocent, tu me saoules. Et il fait non, mais je suis innocent. Et du coup, Walter Hill, énervé, il attrape des cailloux, il les jette sur Landham, en disant ça suffit avec ton innocence. Et si tu regardes la scène, effectivement, bon, c'est un gros moment de testostérone, mais c'est aussi Walter Hill a compris comment il fallait traiter Landham pour qu'il soit le bon acteur au bon moment. Parce que suite à cette engueulade-là, Landham, a priori, sur le tournage, il n'y a plus de problème.
Ouais. Bon, après, c'est vrai que Landham, c'est pas... Mais ça, c'est un des trucs aussi, c'est que quand tu fais des films comme ça, Landham, c'est pas le meilleur acteur au monde, hein, faut être honnête, tu vois. Il nous a quittés... il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, quoi. Mais t'as pas mal, tu vois. James Remar, moi, c'est un mec que j'aime bien. Mais c'est pareil, il faut savoir l'utiliser aussi, parce qu'il a quand même une gueule un peu patibulaire, tu vois. C'est aussi un mec qui a des problèmes de comment dire, on sait qu'il devait être dans Aliens. Mm-hmm. Il s'est fait gicler parce qu'il avait des problèmes d'addiction et tout. Donc, mais après, c'est un peu normal d'aller chercher des mecs comme ça, en fait, pour ce genre de film, parce que si tu veux avoir un peu de cachet, on va dire, et t'as l'impression que ça soit vraiment des mecs dangereux ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, c'est pas, tu vois.
Vu son cinéma, il y a une logique de festival de gueule. Alors, pour Dorsey, non, on est servi, parce que Nick Nolte, c'est une gueule. Remar, c'est une gueule.
Même si c'est le plus beau gosse du truc, parce qu'en fait, même si c'est pas le Nick Nolte d'aujourd'hui, tu vois, on va dire.
Moi, je te dirais que le plus beau gosse, c'est Eddie Murphy.
Mais, non, mais les deux, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que.
Ouais. Et puis, il y a dans un tout petit rôle, mais il y a Brian James, qui était
avec une choucroute sur la tête.
Ouais, mais c'était une de ses gueules du Cinoche. C'est Léon dans Blade Runner, si vous en souvenez pas. Et c'est Requin dans Tango et Cash, je cite les classiques.
Notre ami gueule de con.
Notre ami gueule de con, celui-là, mais on peut pas faire de Buffett sans gueule de con. Ouais. C'est un festival de gueule qui est absolument phénoménal et ça aide aussi à donner le cachet au film.
Et j'avais complètement oublié, parce qu'il nous a quitté cette année, Frank McRae.
Oui.
En fait, dans le rôle
dans le rôle du mec de la station, du capitaine de la Station Hero. Là que ça vient.
Et le mec, il reprend son rôle et j'avais complètement oublié que c'était ça dans 48 heures aussi.
Mais ça. Enfin,
même si c'est qu'une scène, en vrai, hein, scène et demie, quoi.
Une scène et demie. Mais d'ailleurs, ça me permet de ce que tu viens de dire à propos de Frank McRae, de signaler un truc que je trouve très intéressant parce que je trouve que c'est constitutif du style de Walter Hill. C'est que la séquence, justement, où Nick Nolte, donc suite à la séquence de l'hôtel, où il perd son flingue, enfin, il donne son flingue à James Remar pour essayer de sauver son coéquipier qui se fait quand même buter, il y a toute une scène dans le commissariat. Et toute cette scène dans le commissariat, en fait, c'est un plan séquence de 3 minutes 30. Et c'est là que moi, je trouve qu'on retrouve le style de Walter Hill le plus pur. C'est-à-dire que quand il fait un plan, quand Brian De Palma fait un plan séquence, c'est opératique, c'est beau, t'en prends plein la gueule. Lui, quand il fait un plan séquence, je crois que c'est que un panneau, la caméra tourne sur elle-même, sur un axe, donc elle ne bouge pas. Et c'est des gens qui bougent dans le cadre, ça dure 3 minutes, et il y a un nombre d'informations qui est colossal, mine de rien, vu que les gens se bousculent, passent les uns devant les autres, vont voir des panneaux, remplissent leurs armes, manquent de se battre. En fait, c'est un plan séquence qui est ultra conçu, et quand tu le regardes, il coule tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai revu le film là récemment, c'est à peu près à la moitié de cette séquence où je me suis dit, mais c'est qu'un seul plan, ça, en fait. Et je suis revenu et j'ai remis au début, je me suis dit, mais ouais, c'est un plan séquence. Et le truc, il est. Mais bon, enfin, moi, j'adore ce plan séquence, je le trouve mortel.
Ouais, mais c'est vrai que, en fait, en général, bon, après l'idée des plans séquences, c'est effectivement, en fait, nous, on retient ceux qui montrent, comme dans Toute Épreuve, comme dans, effectivement, t'as cité Brian De Palma, Snake Eyes ou évidemment L'Impasse, ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, ça représente le côté no bullshit, encore une fois, parce qu'on va arrêter, on va pas arrêter de dire ça, on va l'appeler Walter No Bullshit.
Walter No Bullshit Hill,
tu vois. Donc voilà, quoi. Mais il y a aussi, alors, il y a, comment dire, moi, il y a un truc en fait qui me surprend en fait aujourd'hui, et c'est peut-être il faut le préciser, c'est l'absence. Enfin, ce qui me surprend. En fait, c'est un film qui devait probablement être très sophistiqué à l'époque où il est sorti, d'où son carton, etc., etc. Mais en fait, il est littéralement pas sophistiqué pour deux sous. En fait, quand tu regardes le truc aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment, ça pourrait presque être une série télé aussi. Enfin, si tu veux un truc de série télé, il y a finalement pas tant d'action que ça.
Non.
Il y en a, tu vois, mais c'est pas non plus, voilà. C'est tendu, en fait, malgré tout, en termes de suspense et en termes d'imagerie. Comment t'appelles ça? Enfin, le scénar, il est pas plus, enfin, tu vois, il est resserré, quoi. Il y a de l'humour là où il en faut. Et c'était un peu aussi la logique, voilà. Et finalement, en fait, tout ça, c'est presque, en fait, c'est tellement été rebattu que c'en est presque étonnant de se dire, en fait, que ça a été justement quelque chose qui a été aussi influent. Parce que tu t'en rends pas compte forcément aujourd'hui, quoi.
Et là où c'est très intéressant, c'est vrai, comme tu dis,
on le sait, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui le découvrirait aujourd'hui, je suis sûr qu'il se dirait pas forcément que c'est aussi
influent
que ça.
C'est un classique, que ça a été une énorme influence. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui vaut peut-être le coup d'être rappelé, c'est que, on l'a dit au tout début du podcast, le film a traîné en longueur sur sa pré-prod, mais sur son développement, qui a été très très long. Mais par contre, une fois que le projet a été lancé, ça a été une prod éclair. C'est-à-dire que Walter Hill a été appelé au printemps, donc au mois de mars, je crois, ou avril, enfin bref, au printemps, 82. 82, hein, je rappelle, le film est sorti en 82. Et ils lui ont dit, t'es toujours intéressé, parce que entre l'affaire de Richard Pryor, de Clint Eastwood, etc., il y a un moment où il est parti faire autre chose, quoi. Et il a dit, ouais, pourquoi pas. Et donc, entre ce premier coup de fil, je suis intéressé, et la sortie, qui a été en décembre, donc il s'est déroulé 7 mois, quoi. Ce qui prouve bien que le film a été non seulement fait dans une certaine urgence, d'où le fait aussi qu'il a ce côté brut de décoffrage et simple dont tu parlais. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que pour Paramount, c'était pas leur plus gros film de l'été, de l'hiver 82. Ouais. Leur plus gros film, c'était Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Celui-là, c'était bon, le Joker. Et d'ailleurs, un truc phénoménal, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un gros film d'action aujourd'hui, ce que tu vas voir, c'est le gros film du studio. Et pour les gens qui aiment pas les films d'action, il y a ce qu'on appelle la contre-programmation. Donc on va un drame arménien ou un film, en tout cas, qui n'est pas un film d'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'hiver 82, à l'affiche, en plus de Airplane, qui était la comédie, il y avait Le Verdict, il y avait Gandhi, il y avait Le Choix de Sophie. Donc en fait, 48 heures était la contre-programmation de tous ces drames pour les gens qui voulaient avoir leur dose d'action.
Mais parce que surtout en fait aux États-Unis et à cette époque-là, aujourd'hui c'est moins le cas parce qu'il y a un blockbuster toutes les 10 minutes, mais en fait à cette époque-là, l'idée en gros c'était qu'on sortait les films à Oscar à la fin de l'année Et les films d'été, tu vois, enfin les films d'action ou les films, les films d'horreur, les machins, etc., etc. L'été 82, hein, c'était The Thing, c'était E.T., c'était Conan le Barbare, c'était tous ces films-là, quoi. Mais alors moi j'ai une anecdote peut-être pour terminer aussi sur on va dire la brouille entre Steven De Souza et Walter Hill qui n'ont jamais rebossé ensemble. Mm-hmm. Les deux en fait étaient considérés par le studio comme des employés du studio.
Ouais.
Donc en gros, Steven De Souza, quand il a vu comment ça s'est passé avec Walter, il a dit « Mais vous êtes sûr que vous voulez que je bosse avec lui ? Enfin, il veut pas de moi, ce mec, tu vois ?» Et comme il était encore assez naïf à cette époque-là, les mecs lui ont dit « Non, écoute, c'est un employé, t'es un employé, tout ce qu'on vient de discuter, tu vas le faire pour le studio. Tu vas prendre tes pages, à l'époque c'était pas informatisé, hein, tu vois, et quand tu les envoies, si tu veux, à les faire imprimer pour les envoyer à l'équipe, tu vois ? Bah en gros c'est tes pages qui seront voilà, sauf que à chaque nouvelle page qui arrivait, les gens recevaient finalement les pages du scénar d'origine, c'est celui de Walter Hill. Mm-hmm. et à un moment donné le studio s'inquiète et dit mais tu réécris en fait ou et Steven De Souza il fait bah je sais pas, je comprends pas, voilà mes pages en fait. Il leur montre les pages qu'il avait et ils se sont rendu compte que Walter Hill interceptait en gros les pages de Steven De Souza pour ne pas avoir à les tourner. Si tu veux, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça se faisait très très vite au bout d'un moment et il en voulait pas. Finalement, il reste quelques idées, tu vois, notamment. Alors, il y a le bar, en tout cas, Steven De Souza dit que le bar de Redneck, c'est une idée à lui, en fait. Mm-hmm. À la base, c'était vraiment un bar avec des noirs. Enfin, un bar.
Qui est toujours là dans le film, d'ailleurs, puisque t'as un bar un peu plus funk vers la
ouais,
fin.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'était la même idée, quoi. Et t'as aussi apparemment l'endroit où était planquée la thune, c'était dans un. Comment t'appelles ça? Dans une box, quoi, en fait. Et Steven Souza, il fait, mais ça, c'est un truc des années 30. Enfin, c'est bon, c'est un truc de film noir, en fait, tu vois. Donc, on va le mettre dans une belle bagnole, tu vois. On va le mettre dans une bagnole et ça va être tout ce truc. Et en fait, il y a tout. Du coup, il a écrit toutes les scènes qui vont autour de la bagnole qu'il faut récupérer, etc., etc., quoi. Et ça, apparemment, c'est les deux gros apports de Steven De Souza, en fait, dans ce scénar-là. Apparemment, entre autres choses, quelques idées de scènes d'action et choses comme ça, quoi. Mais voilà, avec d'ailleurs notamment. Alors, ça, c'est. Je pense que c'est du Walter Hill parce qu'il le réutilise carrément, en fait, une poursuite entre bagnole et bus, mm-hmm. Qui est littéralement en version plus dans.
La version musclée, la version Schwarzeneggerienne, quoi.
Voilà, c'est ça, de double détente, quoi, de Red Heat, qui sera fait 6 ans après, quoi. Qui est aussi un autre buddy movie avec Arnold et James Bellucci, quoi. Donc il y a cette espèce d'animosité entre Walter Hill et Steven De Souza qui finalement est quand même un petit peu dans le film, parce que selon la guilde des scénaristes, tu peux pas en fait créditer quelqu'un comme Steven De Souza s'il a pas écrit une grosse partie du film, quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, comme il est quand même crédité, il y a l'idée qu'il a quand même retravaillé pas mal et que finalement Walter Hill s'est quand même plié à ce que le studio voulait, quoi. Est-ce qu'on parle très vite de la suite ?
Bah on peut,
Parce que si on fait peut-être un épisode un jour dessus, même si moi je trouve personnellement que ça n'a pas grand intérêt, je ne l'ai jamais revu, je l'ai vu qu'une fois en salle à l'époque.
Moi je l'ai vu, j'ai le Blu-ray qui est ressorti il y a pas longtemps avec
j'ai toujours été déçu de que ça soit exactement la même chose, en fait. À chaque fois je me disais c'est quand même
c'est un film qui a effectivement connu une genèse a priori aussi compliquée que 48 heures, si c'est pas plus, puisque l'anecdote la plus connue c'est que le film faisait 2h15 et le film qui est sorti en salle, en fait on avait moi j'ai connu ça que deux fois dans l'histoire du cinéma, c'est Avengers, pas le Marvel, le chapeau melon et bottes de cuir en 98 et 48 heures de plus, donc en 90, je crois.
Ouais.
Où en fait les films ont été coupés de 45 minutes, mais littéralement 2 semaines avant leur sortie. Mm. Et donc du coup, bah forcément, les films ont du mal à avoir une histoire qui se tient. Mais on a quand même un film avec 48 heures de plus, on a une équipe qui revient, on a des acteurs qui reviennent, on a même on reprend la séquence de Roxane. Pas tant, je pense, par manque d'inspiration, mais que pour dire, en fait, le personnage qui devait sortir au bout de 3 mois n'est pas sorti et donc n'a pas évolué et il a repris ses habitudes de tolard. Donc, moi, je trouve que c'est une suite qui a plein de choses intéressantes. Mmh. Notamment son utilisation une fois de plus des seconds rôles, j'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu parce que c'est un film mine de rien moins connu qu'eux, mais dans son utilisation des seconds rôles, il fait un truc que je trouve assez malin pour identifier le bad guy du film.
D'accord. Bon, alors 48 heures de plus, c'est sûr que c'est un film qui est surtout beaucoup moins apprécié. qui a laissé finalement beaucoup moins une trace.
Peu de traces, parce que
qu'en fait, il arrive aussi 8 ans après, c'est-à-dire que c'est quand même, enfin, 7 ans et demi après, enfin, c'était un peu compliqué, je pense, de réinventer le truc, et c'est vrai que pour le coup, on aimerait, il y avait toute une intrigue secondaire qui a complètement disparu du film, et c'est, je pense qu'on la verra jamais, hein, je pense que c'est perdu, ouais. Mais
sans doute.
Il y a peu de chances qu'il y ait un Walter Scott, tu vois.
Bah déjà, notre ami Walter, il doit avoir pas loin de 80 balais maintenant.
Ouais, tout à fait. Mais il continue à tourner. Hein,
il continue à tourner, ouais. Mais c'est comme tous ces gars-là qui sont bruts de décoffrage, t'as l'impression qu'ils vont mourir sur un plateau, quoi. Ouais. Ils aiment vraiment ça.
Ouais. Et voilà, bon, bah, du coup, on conseille.
Ah ben je conseille 48. En fait, de toute façon, globalement, je conseille à peu près tous les films de Walter Hill en ce qui me concerne.
Ah ouais, il y a quand même, une partie dans les années 90 qui était un peu compliquée quand même. Hein.
Certes.
Bon, les Geronimo, alors il faudrait que je les revoie. Les Geronimo, les Wild Bill, tout ça, je me rappelle que c'était quand même un petit peu plus.
Ouais, c'est vrai que c'est un de ces réalisateurs un peu brut de décoffrage qui a toujours dit j'ai envie de faire du western, mais contrairement à Carpenter qui a jamais réussi, lui il en a fait, puis il en a fait plusieurs.
Ouais.
Mais dont des chouettes, hein, le gang des frères James, bon, qui est pour le coup avant 48 heures, c'est plutôt chouette.
C'est plutôt cool. Non, mais il a des super films, mais c'est vrai que bon, tu vois, les Geronimo, les Wild Bill, moi, il faudrait peut-être que je les revoie pour me refaire une idée, comme 48 heures de plus d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera à ce moment-là. Quoi.
Écoute, si t'as besoin d'en reparler, je suis là.
On en reparlera alors. Merci Julien.
Merci à toi, merci Alain, merci à tous.
Merci Alain à la technique, merci à nos auditeurs qui nous suivent. Pour nous écouter, bon, bah, c'est les agrégateurs de podcasts habituels, hein. On est sur Spotify, on est sur Acast, on est sur YouTube aussi, hein, même si c'est à la base plus pour le format vidéo normalement. Et puis nous, on se retrouvera pour un autre film, hein, Julien.
Absolument.
Un film plutôt sympathique aussi, quoi. Voilà. Merci à tous.